Bienvenue, bonjour à tous, à ce séminaire de droit politique sur le thème « La Constitution est-elle une norme ?» Séminaire donc qui est le premier d'un ensemble de séminaires qui se tiendront dans le cadre d'un contrat avec l'Agence nationale de la recherche, un contrat ANR en droit politique. Et pour commencer par le commencement, nous avons donc un thème un peu fondateur, un peu fondamental. Je voudrais d'autant plus remercier les intervenants qu'en réalité c'est un premier séminaire, mais un séminaire 1 bis, dans la mesure où nous avions déjà tenu une session il y a quelques mois et qu'à la suite de fâcheux problèmes techniques d'enregistrement avec un nouveau matériel que nous ne maîtrisions que fort peu, nous n'étions malheureusement pas en mesure de restituer les débats que nous avions eus. Donc, au nom de l'équipe qui anime ce contrat ANR, je voulais remercier très chaleureusement une nouvelle fois les intervenants d'avoir accepté de rééditer en quelque sorte l'exercice. Et pour cela, donc, nous avons le plaisir d'accueillir Renaud Baumert, qui est maître de conférence à Paris 2, Bruno Daugeron, qui est maître de conférence à Paris 10, Armelle Ledivelec, professeur à Paris 2, Arnaud Lepidouer, maître de conférence à Cergy, Michael Diffaras, professeur à Sciences Po, Olivier Beau, professeur à Paris 2 et directeur de l'Institut Villers, Denis Baranger, professeur à Paris 2, Guillaume Tussaud, professeur à Rouen, et moi-même, donc, je vais tenter d'animer, ou tout au moins de lancer modestement les débats. Carlos Pimentel, je suis professeur à Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Donc, nous allons retrouver une question dont nous avions déjà commencé à parler il y a quelques mois de cela, avec, comme lors des séminaires de droit politique qui désormais relèvent presque de l'ordre de la coutume universitaire, deux sessions successives, entrecoupées d'une pause. Pendant la première, j'aimerais qu'on essaie de centrer les débats sur la question suivante, savoir dans quelle mesure est-ce que la notion de norme est adaptée pour décrire la Constitution ? Est-ce qu'elle peut faire l'affaire ? Est-ce qu'elle peut convenir ou est-ce qu'elle est trop limitative? Et puis, deuxième question, dans un deuxième temps, une question qui intéresse spécialement le droit politique, quelle est la place qu'il convient de donner aux conventions de la Constitution, qui, dans une problématique de droit politique, ont sans doute une importance beaucoup plus grande que celle qu'on leur reconnaît d'habitude, voire éventuellement une place prépondérante. Quelle est leur relation avec le texte constitutionnel lorsqu'il y en a un? Et comment est-ce qu'on va les articuler avec la notion de Constitution qui a été retenue au départ, donc qui fait l'objet de la première session, dans quelle mesure rendre tout cela compatible. Du point de vue de la manière de procéder, donc nous allons procéder comme lors des précédents séminaires de droit politique, c'est-à-dire dans le cadre d'un débat très libre, dans lequel il n'y a pas d'intervention formellement délivrée par les intervenants, au contraire, un dialogue permanent avec des règles extrêmement restreintes et très rares, se signaler par un petit signe donc à l'attention de votre humble serviteur lorsque vous souhaitez intervenir. Je fais une petite liste d'intervenants dans l'ordre. Et le cas échéant, mais le cas très échéant, si jamais il y a une toute petite intervention très courte pour préciser ou objecter quelque chose dans le cadre d'un débat, dans le cours même, dans le feu du débat, peut-être le signaler par ce petit signe. Mais il s'agirait dans ce cas-là d'une intervention vraiment courte. La deuxième grande règle, qui est à peu près la seule, c'est d'éviter les apartés, d'éviter les sideways conversations et de préserver toujours un débat global. Et je précise également que si dans la première partie, pour lancer le débat, on en restera aux intervenants d'aujourd'hui, pendant la seconde, en revanche, la salle sera tout à fait habilitée à intervenir, soit pour poser des questions, soit pour proposer des alternatives, et éventuellement, donc, le cas échéant, à revenir sur un thème qui a été traité précédemment. Voilà donc, en quelques mots, la manière dont nous allons essayer de procéder. Je me bornerai à essayer d'introduire, peut-être à lancer le débat sur la première question. Dans quelle mesure la Constitution est-elle susceptible de rentrer dans le cadre de la norme, sachant que le modèle traditionnel de la norme est celui d'un commandement unilatéral, d'un gouvernant qui s'adresse au gouverné, commandement assorti de sanctions. L'idée étant assez constante sous des figures différentes, depuis la loi de Bodin jusqu'à la norme de Kelsen. Et le problème, et j'imagine que, en l'occurrence, nous en serons sans doute tous d'accord, c'est que si on reprend ce modèle tel quel, sans rien y modifier, il est peu adapté, voire pas du tout adapté, à la Constitution, dans la mesure où la Constitution n'émet à peu près pas de commandement adressée à des sujets, elle institue des organes, elle leur attribue des compétences, et donc elle intervient en amont du commandement, éventuellement même à un moment instituant, en deçà duquel on ne sait pas encore qui sera habilité à commander. Elle traite donc des conditions de possibilité de ce commandement, du principe même de l'autorité, et pas de son exercice effectif. D'où la question qu'on peut énoncer très simplement à ce stade. Les règles qui confèrent un titre à gouverner sont-elles d'une nature différente des commandements eux-mêmes qui en résultent ? Peut-on attribuer en somme des compétences de la même manière qu'on donne des ordres au gouverné ? Alors je simplifie, je schématise la question, mais on pourrait dégager donc deux grandes réponses possibles. La réponse affirmative, oui, le modèle de la norme peut être repris, à condition de l'adapter à un objet quelque peu différent, et c'est donc l'objet de la notion de norme d'habilitation. Ou bien au contraire, une réponse négative, non, le modèle de la norme n'est pas applicable, car ce qui se joue dans le moment même de l'institution du pouvoir serait de nature différente, et au fond, l'assimiler à un type spécial de norme supposerait implicitement, d'une certaine manière, que le problème de l'autorité serait déjà résolu, puisque l'attribuer et l'exercer ne seraient pas des actes de nature fondamentalement différentes. Je résume et schématise le problème et simplifie assez outrageusement la question, mais on aura tout le loisir de la préciser, de la redessiner. Et peut-être, en quelques mots, pour lancer quelques pistes, quelques-uns des problèmes qui sont soulevés tant par l'une que par l'autre démarche, et dont on pourrait éventuellement discuter. Dans le cadre du modèle de la norme d'habilitation, il y a déjà une question toute simple qui est où se trouve la sanction ? Dans le modèle classique de la norme, l'existence de la sanction est quelque chose de très important, voire d'essentiel, puisque pour Kelsen, c'est la composante primaire de la norme. Or, s'agissant d'habilitation, on ne sanctionne pas un comportement déviant, on annule, le cas échéant, un acte contraire à l'habilitation, c'est-à-dire qu'on va soit reconnaître, soit nier la valeur juridique. Pour reprendre un langage utilisé par Hart, on affirmera ceci est ou n'est pas une règle du groupe. Est-ce que c'est la même chose qui est en jeu dans une annulation ou dans une sanction ? Moi, je n'en suis pas persuadé. J'ai l'impression qu'une sanction collective à l'encontre d'un individu n'a rien à voir par soi-même avec un acte d'annulation qui, au contraire, s'adresse à l'ensemble de la communauté politique. Mais on aura l'occasion d'en discuter. Et puis, peut-être aussi sur la notion de norme elle-même, c'est-à-dire dans quelle mesure, si on admet la notion de norme d'habilitation, dans quelle mesure cette notion de norme garde un sens véritablement précis. Si on n'est plus spécifiquement dans le commandement, alors comment dégager, comment décrire ce qui reste en quelque sorte de normatif ? On peut dire, je crois que c'est un peu l'idée que Guillaume Tussaud avait illustrée dans sa thèse, on reste dans le monde de la norme dans la mesure où la norme d'habilitation continue à orienter des comportements. Mais dans ce cas-là, est-ce que ça ne devient pas quelque chose d'assez vague, là encore ? Et qu'est-ce que ça veut dire exactement, orienter des comportements ? De quelle manière ? Est-ce que c'est d'une manière comparable ou différente à ce qui se passe dans la norme au sens classique ? Là encore, est-ce qu'on ne suppose pas le problème de l'autorité résolu ? Et est-ce, ou peut-être, est-ce qu'on ne se borne pas à, j'allais dire, baptiser la difficulté au lieu de la résoudre ? Et qu'est-ce que ça signifie observer la norme d'habilitation, puisqu'il ne s'agit pas vraiment d'y obéir, reconnaître l'autorité qu'elle institue si on enlève l'exercice de la contrainte. Donc c'est peut-être quelques exemples des problèmes sur lesquels on va, les problèmes qu'on va rencontrer si on veut conserver le modèle de la norme. A l'inverse, si on veut remettre en cause ce modèle, il faut tout simplement savoir par quoi le remplacer. Je ne veux pas présenter de point de vue trop orienté, mais enfin un tout petit peu quand même, s'il est permis au modérateur d'apporter un début de commencement de point de vue. Il me semble que ce qui se joue là-dedans, c'est le phénomène d'une reconnaissance collective de l'autorité par les sujets. C'est-à-dire, non pas l'obéissance elle-même, mais ce qui fait qu'on obéit. Et si cette reconnaissance fait défaut, les organes du gouvernement, je crois, cessent tout simplement d'avoir une existence collective, parce qu'ils n'ont plus de sujet, tout bonnement. Le roi Lear n'est plus roi une fois qu'il est tout seul. Pour prendre un exemple moins sérieux, l'empereur Smith de Lucky Luke n'a jamais été vraiment empereur, mais on a fait semblant pendant un certain temps. Le jour où on ne fait plus semblant, il n'est plus rien. Ou, pour prendre un exemple un peu moins farfelu, les régimes communistes cessent d'exister en 1989, lorsqu'ils cessent eux aussi d'avoir des sujets. Et donc, peut-être, me semble-t-il, la difficulté serait, doit-on appréhender ce phénomène dans une interrogation juridique ? Et si oui, comment ? On ne peut pas l'aborder par le biais de, en postulant un consentement qui serait parfaitement libre sur le modèle de l'idéal du contrat social, dont nous savons tous qu'il est une fiction. Et Michaël nous dirait de toute manière que le modèle du consentement serait inutilisable parce qu'il y a toujours de l'autorité préexistante à l'œuvre dans le corps social. On ne peut pas non plus l'aborder par le seul angle de la contrainte, puisque tout simplement on peut tout à fait contraindre un individu qui a une conduite déviante, mais on ne peut pas contraindre tout un peuple. Et donc la question est évidemment de savoir sur quoi se fonder pour essayer de décrire les phénomènes qui se jouent dans l'habilitation si on ne veut pas retenir le modèle de la norme. Et à partir de là, je crois dans ce que Guillaume appelle les thèses constitutivistes, sa propre thèse, il y a essentiellement le modèle des actes de langage, la lignée qui se trace depuis Austin jusqu'à Searle, dans lequel, je simplifie, énoncer la constitution en quelque sorte suffirait à en produire la réalité, de même que lorsque le maire déclare deux individus unis par les liens du mariage, ils sont effectivement mariés. Et à ce propos, il y a une grande objection que tu fais, je crois très justement, Guillaume, dans ta thèse, c'est qu'admettre une telle vision, ce serait conférer au langage une espèce de pouvoir magique, passablement mystérieux et irrationnel, et je crois que c'est une véritable objection, tout simplement parce que peut-être ce qui fait que les institutions existent, ce n'est pas le pouvoir de la parole du seul constituant locuteur, car souscrire à un tel point de vue, ce serait oublier sans doute qu'on est en face d'un phénomène essentiellement collectif, et avant tout collectif. Une constitution n'existe pas si elle n'est pas reconnue comme telle par ses sujets, et les gouvernants, même austiniens, ne peuvent pas entièrement s'auto-habiliter, ça n'est tout simplement pas possible. Et donc peut-être tout bonnement, il en résulte la question pour penser, si on veut essayer de le faire, l'institution du pouvoir à travers la constitution, il faut un minimum aussi penser l'institution de l'obéissance. Est-ce qu'on peut essayer d'en dire quelque chose dans une approche juridique, dans une approche de droit politique en tout cas? Et si oui, qu'est-ce qu'il est possible d'en dire et comment? Voilà peut-être quelques axes à partir desquels il serait possible de commencer à orienter le débat que nous allons avoir dans cette première session. Et tout en m'excusant donc de cette introduction qui, je crains, était déjà passablement longue, je cède donc la parole trop tard à nos intervenants.
Bien commencer, c'est peut-être plus facile qu'après plusieurs interventions qui orienteraient déjà une discussion qui est très très large. Alors tout d'abord, je voudrais m'excuser auprès des participants pour avoir eu la faiblesse de mettre à disposition un vulgaire paper que mes amis m'avaient quand même incité à mettre à disposition. Évidemment, il tranche avec les pages très denses d'une thèse qu'il est évidemment dans son ensemble de Guillaume Tussaud. Et évidemment, on ne peut pas comparer les textes puisqu'ils n'ont pas du tout le même statut. Dans mon cas, c'était quelque chose comme un début d'esquisse de commencement grossier d'intuition que je voulais coucher par écrit et d'un programme de recherche que pour l'instant je ne parviens pas vraiment à mener. Il faudrait partir 6 mois sur une île déserte sans téléphone ni internet peut-être pour commencer à y arriver. Et en réalité, nos prémices théoriques, épistémologiques, méthodologiques sont évidemment très différentes. Les miennes sont sans doute beaucoup plus floues et beaucoup moins solides et pensées que les siennes. Comme lors du précédent séminaire, je pense que ça peut être la même chose aujourd'hui, on a affaire à forte partie, compte tenu des thèmes, et Carlos a présenté une série de problèmes, il y en a peut-être encore d'autres, autour de cette notion de constitution, qui nous préoccupe tous de manière, chacun notre manière. Et pour ma part, je dois dire que je ne suis pas sûr que la discussion... ou alors ce que je recherche et que je ne trouve pas encore, que je ne lis à peu près nulle part, que ce soit en me limitant autour de la notion de norme que je la trouverai. Ce qui ne veut pas dire que je ne serai pas suivre avec intérêt ce qui se dira. C'est-à-dire que je pense que partir et se tourner tout exclusivement autour de la notion de norme, de norme juridique j'entends, je crains que ça ne rapetisse d'emblée le débat. Et je dis ça d'une manière pas... péremptoire, hein, je suis encore beaucoup plus dans les questionnements que dans les affirmations, bien entendu. Ce que je recherche personnellement depuis un certain temps, c'est un concept un peu opératoire de constitution, et je ne le trouve pas tellement dans ce que je lis depuis un certain temps, et donc évidemment un peu inspiré par les travaux de Pierre Avril, les travaux de Capitan, qui étaient aussi à l'ordre du jour, si on peut dire, et puis bon, toute une série d'auteurs, notamment Jean-Marie Danquin qui est là, voilà. Très bien, parce qu'il pourra défendre peut-être beaucoup mieux que moi quelque chose, une direction qui m'est sympathique et que j'approuve. C'est l'idée au départ qu'on parle beaucoup de normes et finalement ça ne rend pas du tout compte des ordres constitutionnels contemporains. C'est que je serais tenté j'ai une intuition qui est peut-être plus une intuition qu'une conviction, et en tout cas je n'ai pas moi-même livré une démonstration claire, et mon papier est loin de il aurait fallu déconstruire beaucoup de choses pour pouvoir avancer plus nettement des esquisses de thèse, mais l'idée que j'ai d'ailleurs trouvée dans un article de Jean-Marie Danquin, qui est correspond à au moins des intuitions, des sentiments que plusieurs d'entre nous ont, l'idée que les institutions précèdent le normatif, précèdent les normes, que les normes sont posées par des institutions. Évidemment, on pourra dire, comme l'œuf et la poule, il faut bien que les institutions soient posées par une norme, mais je pense qu'on peut, pour employer une formule de Guillaume l'autre jour, bricoler un raisonnement qui fait qu'en réalité, on peut poser que les institutions précèdent et qu'elles sont consacrées par une sorte de norme, qui serait peut-être une norme primaire, et qu'une institution de fait, mettons un gouvernement provisoire en 1944, qui n'a pas d'existence juridique, qui surgit du fait, du pur fait, rentre dans une légalité, et donc on rentre dans un ordre normatif, mais il y a une institution qui a précédé, qui a organisé un processus préconstituant. Olivier Beau, dans sa thèse, a développé l'idée d'acte préconstituant. Je pense que tout ça, ça fonctionnerait. Alors, quand je disais, je pense qu'on on doit aller au-delà, pas se satisfaire, tourner seulement autour de la notion de norme. Dans ma recherche, une vision satisfaisante et un peu opératoire de la Constitution, j'ai proposé dans ce papier reprendre une formule en la francisant, et du coup elle est bien moins jolie évidemment, une formule que j'ai trouvée chez Ernst Wolfgang Böckenförde et que j'ai traduit par ordre cadre normatif, normative Rahmenordnung, dit-il. Alors je l'emploie dans un sens qui est peut-être un peu différent de lui, mais qui m'est suggéré, disons, par ce que je sens des problématiques constitutionnelles. Quelque chose de normatif, oui, parce qu'il ne s'agit pas de reprendre ou même pas d'actualiser, je crois, une notion floue qui a eu cours pendant un certain temps dans la doctrine inspirée par les politistes de naguère, ce qui n'existe plus, disons, le système politique, par opposition au régime politique. Olivier Duhamel, il y a déjà 20 ans, a repris ça d'une manière un peu simplifiée. C'est quelque chose de normatif. Alors il y a différents degrés de normativité, et là-dedans, évidemment, la plus grande part est certainement une normativité juridique, des règles, des normes juridiques. L'idée d'ordre, car je pense que l'une des choses fondamentales dans notre façon de parler de la Constitution, et on emploie le terme Constitution pour désigner des choses qui sont différentes, il y a l'instrumentum, il y a le texte, quand c'est une Constitution écrite formelle, mais il y a, en fait, on désigne souvent par le mot Constitution quelque chose qui est plus large. Et donc, certains pourraient appeler un système constitutionnel, on préfère appeler un ordre, puisqu'il y a l'idée d'ordre, et par transposition un petit peu de l'idée d'ordre juridique, Charles Le Pen avait fait un article synthétique sur ces questions d'endroit il y a quelques années, que j'avais trouvé très éclairant. Donc plus qu'une simple juxtaposition de normes, étant entendu que pour moi la Constitution ne peut déjà ne pas être une norme, puisqu'elle est un ensemble de normes. La Constitution entendue au sens le plus technique du terme, c'est déjà une succession de normes ou d'énoncés qui sont devenus des normes. Ensuite, l'idée de cadre, car je pense qu'il est fondamental, ça répondait à l'une des questions posées par Carlos par écrit à l'origine de ce séminaire, l'idée du commandement et l'idée que la Constitution ne prescrit pas, on n'est pas dans l'idée d'un rapport d'obéissance. En effet, cette idée que Michel Tropper, entre autres, a souvent soulignée, contrairement à la majorité de la doctrine française notamment, l'idée qu'en effet, on est dans l'idée d'un cadre qui ne détermine pas, il peut conditionner en partie des comportements, mais il ne les détermine pas. En gros, un président de la République, pour prendre un exemple très simple et parlant, doté de toutes les compétences affranchies contre ça n'en fait pas un président fort, ça n'est pas structurellement une constitution présidentielle ou quelque chose comme ça. Donc ça, on peut, à travers justement, si on se concentre sur les questions de système de gouvernement, je crois qu'on peut le montrer assez nettement, j'ai parfois essayé de le faire, sur les questions de gouvernement parlementaire, entre autres. Ensuite, il y a la dimension, j'ai un peu moins travaillé, mais je pense que c'est presque plus facile encore à mener, l'idée de, disons, la partie principes structurants et droits individuels, garantie des libertés dans une constitution libérale moderne. Là aussi, on a des énoncés écrits, mais qui posent autant de principes constitutionnels que le juge va pouvoir éventuellement appliquer et imposer aux gouvernants et aussi aux individus. On est là dans une création très libre où le fait d'avoir un catalogue de droits fondamentaux ne change pas fondamentalement les choses. Certains juges inventent littéralement des principes, ça je crois que c'est quand même reconnu quand même par les juristes les plus sensés aujourd'hui. Et donc cette partie, cette autre dimension de la constitution libérale moderne montrerait aussi qu'on est dans l'idée d'un cadre normatif, un cadre à l'intérieur duquel il y a une grande liberté pour les acteurs de se déterminer dans ce sens ou dans un autre. Alors voilà, je n'ai qu'une esquisse de thèse sur l'idée que la Constitution c'est plutôt un ordre cadre normatif qui inclut des règles écrites, des règles non écrites, des règles, on pourrait dire, strictement juridiques, avec des règles qui le sont moins, qui seraient des règles peut-être plus politiques. Là, on pourrait caser les conventions de la Constitution, ou, si on préfère d'autres formules, on peut peut-être les trouver. Et c'est une manière de voir, bon, évidemment, j'aimerais savoir accessoirement, parce que peut-être que la discussion ne portera pas sur ces questions-là, et j'en suis pas le premier responsable, parce que peut-être que sûrement mon paper est-il trop inabouti sur ce point, et peut-être des intervenants diront, bon, c'est bien gentil, mais au fond, c'est pas la bonne direction, et déjà, ça m'éclairerait sur les travaux que je compte donc mener, si c'est une direction qui est possible. Mais j'ai bien conscience que là, c'est une direction que je propose, mais la discussion peut tourner autour de tout à fait autre chose, sachant qu'on est face à un complexe de problèmes, en fait, très, très grand, et donc la direction, les débats peuvent porter sur des choses très différentes.
Si je comprends bien ce que tu nous dis, Armel, c'est qu'en substance, les briques qui constituent l'ensemble sont, pas exclusivement, mais principalement des normes, et là, ouais. tu acceptes la notion classique de normes.
Des énoncés normatifs. Ouais.
C'est leur agencement, c'est l'ensemble qui n'est pas normatif, qui est autre chose et qui est un ordre cadre, c'est ça?
Oui, non, il est normatif, il a quelque chose de normatif, en ce sens qu'il structure un ordre politique. Et donc, c'est dans cela qu'il est normatif pour moi. Donc, de ce point de vue-là, je ne romps pas, je crois, tout à fait les ponts avec une approche toute bête de dire la Constitution est une norme ou un ensemble de normes. Mais il n'y a pas que les normes juridiques, et j'insiste sur le côté de la mise en relation des normes les unes avec les autres, et notamment ce que j'ai proposé, c'est une distinction un peu plus stricte que ne le fait la doctrine majoritaire, ou la vulgate, disons. C'est ce que je propose d'appeler le droit de la Constitution, qu'on peut prendre dans une Constitution écrite quand il y en a une, où là, on a tel article qui énonce tel... Pour moi, ce sont des énoncés qui ne deviennent des normes qu'après concrétisation, donc déjà, il y a certaines étapes que j'ai résumé dans un tableau. Donc, des énoncés à prétention normative, et ce que quand je dis une constitution, évidemment, je ne prétends pas qu'il y a des normes. Pour moi, le stade de normes, on accède au stade de la norme qu'une fois qu'elles sont appliquées. Voilà. Et donc, l'idée du droit de la constitution, qui est un assemblage de règles, alors les constitutions sont plus ou moins bien écrites quand elles sont écrites, pensées de manière plus ou moins complète, et puis, dans tous les systèmes les plus charpentés, on a évidemment plein de questions qui ne sont pas réglées et où des normes non écrites apparaissent, finissent par apparaître, où le droit se fabrique, je dirais, chemin faisant par les acteurs. Et de cette notion de droit de la Constitution, je distingue l'ordre constitutionnel, l'ordre cadre normatif, qui est la résultante complexe, et il y a des opérations que je n'ai pas encore tout à fait moi-même élucidées, qui aboutit à ce qu'on appelle souvent Constitution, mais qui pour moi est plutôt un ordre cadre normatif.
Alors, tu ne te satisfais pas de la notion classique de norme, mais tu la reconstruis d'une autre façon, en l'agençant autrement, d'une certaine manière. C'est un petit peu ça, ou est-ce que j'ai mal compris?
Peut-être. Mon obsession n'est pas de congédier complètement la notion. Alors, c'est une notion très simple de norme, mais pas spécialement. Et donc, de ce point de vue-là, l'idée de norme d'habitation, la première fois que je l'avais lue, c'était chez Michel Tropper, et elle n'était pas spécialement travaillée, me semblait-il, mais ça me paraissait... très éclairant de parler d'habilitation, mais encore, je pense qu'on pourrait, si on prend, parce que c'est plus facile, l'exemple d'une constitution écrite de la France, de l'Allemagne ou de l'Italie, on pourrait regarder et opérer des distinctions beaucoup plus subtiles entre ce que l'on trouve dans la constitution. Il y a des énoncés très déclaratifs qui ont une charge normative nulle, ou une prétention normative à peu près nulle. Il y a des choses très techniques, très bien ficelées, ou très, des normes pour le coup à texture très fermée. Je pense qu'on peut reprendre aussi ces distinctions. Ont déjà été dégagés par la théorie du droit par opposition à des normes à texture plus ouvertes, je crois que ça peut servir cela. Et donc, on pourrait travailler, si on voulait affiner la notion de constitution sans aller très loin, faire déjà des distinctions beaucoup plus fines, disons, sur les différentes composantes d'une constitution écrite, sachant que pour moi, la constitution écrite, évidemment, n'est qu'une petite partie de l'ordre cadre normatif.
Okay.
Alors, très brièvement. Et pour redonner la parole à Armel, en fait. Dans la manière de poser la question, mais ça je crois qu'il n'y a pas de désaccord là-dessus, la Constitution n'est pas en elle-même une norme, n'est pas en elle-même un ordre cadre constitutionnel. Il y a une théorie de la norme qui permet de penser la Constitution comme ça. Je crois que les théoriciens qui usent ce genre d'outils sont tout à fait prêts à reconnaître qu'il s'agit d'une réduction, qu'on peut trouver plein d'autres choses dans les phénomènes qu'on associe habituellement à la Constitution. Et cette réduction, chez Kelsen par exemple, elle a essentiellement pour objet de mettre en question la légitimité d'un certain nombre d'interprétations et d'un certain nombre de glissements de sens. Je pense en particulier à ce qu'on appelle ici la doctrine, le droit des professeurs de droit, Donc Elsen trouve que ça n'est absolument pas une source constitutionnelle, que ce sont des interprétations qui n'ont pas valeur authentique, et que ce serait bien de ne pas les confondre avec des interprétations authentiques. Voilà. Et alors moi, ma question, c'est ça, j'ai aucune difficulté. Je pense que tous les appareils théoriques dont on se dote ont le mérite de mettre en lumière certaines choses et de laisser dans l'ombre, en défaut de laisser dans l'ombre d'autres choses. Je serais tout à fait susceptible de trouver très bien d'utiliser un cadre théorique qui serait l'ordre cadre constitutionnel plutôt que une théorie de la norme, parce que j'imagine que ça permet de mettre en lumière des choses qui sont passées à la machine à réduire. Mais est-ce que tu peux l'exposer ? C'est-à-dire, quels sont les gains théoriques ? Qu'est-ce que le fait d'adopter ce cadre-là va nous permettre de mettre en évidence ? Quel est le but de ton projet, au fond ?
Le but de projet, c'est la vanité illusoire de changer quelque chose au schéma de pensée de mes contemporains, des juristes. Est-ce que ça sert effectivement à quelque chose ? Il me semble que c'est un peu plus parlant.
Pardon, tu veux dire ça décrit mieux la réalité ?
Je pense que ça explique mieux.
Ça explique plus de choses.
Ça rend plus compte de ce qui se passe.
Du vrai droit.
Évidemment, il n'existe pas. Mais ça approche peut-être un peu moins mal, me semble-t-il, la façon dont l'ordre constitutionnel français ou d'un autre pays est structuré.
Mais ça, enfin, c'est un gros argument. Est-ce que tu peux le développer ?
C'est probablement.
Parce que, tu peux dire, il y a des phénomènes que ta théorie, dont par exemple les conventions, par exemple tout un tas de trucs dont la théorie que tu appelles norme ne rend pas compte, d'accord. Enfin, tu découpes le réel autrement, d'accord. Mais pourquoi est-ce que tu veux avoir une théorie plus englobante qu'une théorie plus. Enfin, je veux dire, c'est. En augmentant en plus, tu vas avoir d'autres effets.
Sûrement. Mais ça, on peut sans doute répondre qu'à la fin, quand on a ébauché, enfin, quand on a formulé une première manière, une théorie ou une approche, et ça, une théorie, c'est peut-être aller un peu loin. Développer une approche et aussi de problématisation des questions. Bon, ce que je sens le mieux et ce sur quoi j'ai le plus travaillé ces dernières années, c'était dans cette distinction entre droit de la constitution et système de gouvernance, ça me paraissait assez éclairant. Parce que on construit toute une série de. Enfin, une série de façons de présenter la question que la plupart d'entre vous appelleront la question des régimes politiques, où on ne sait pas exactement ce qui est juridique là-dedans, on ne sait pas comment véritablement ça naît, ça fonctionne, ça évolue éventuellement. Et donc, la distinction entre droit de la Constitution et système de gouvernement, donc système de gouvernement comme étant une des parties majeures de cet ordre constitutionnel, et je distingue entre ce qui est l'ordre effectif, c'est-à-dire il y a des éléments politiques, et là on se rapproche de la notion de système politique à un temps T pour un pays donné, et la notion qui, elle, se rapproche plutôt de la constitution norme en cette manière, qui est l'ordre constitutionnel, l'ordre cadre normatif. Une des choses que je trouvais personnellement parlante, c'était la distinction donc, entre ces éléments techniques, comme l'article 49, l'article 50 de la Constitution, ou l'article 8, qui sont des éléments techniques, des éléments d'un droit de la Constitution, sont rédigés de telle manière dans la Constitution française de 58, mais d'une autre manière dans une autre Constitution, et qui aboutissent à un système de gouvernement, alors différent ou identique. Et là, je dirais, la doctrine ou la vulgate constitutionnelle, mais je vous conseille, et probablement vous tous d'accord là-dessus, c'est qu'évidemment, on ne lit pas grand-chose d'extrêmement éclairant sur ces questions-là, de toute manière, parce que je crois que la doctrine française est malade de ses manuels. C'est une science de manuel, et les manuels vulgarisent, et il n'y a pas eu assez d'essais, d'ouvrages, d'essais ponctuels sur un aspect des questions. Donc ça, c'est cette distinction entre des normes isolées qu'on trouve dans les constitutions écrites, encore une fois, c'est plus facile de raisonner là-dessus, mais je pense qu'une bonne théorie de la constitution doit tout à fait intégrer les constitutions coutumières, ça me paraît important, même si elles tendent à disparaître. Donc ça, pour moi, c'est un gain, pas seulement pour décrire, mais aussi, je crois, pour trouver des explications. On peut expliquer pourquoi, je ne sais pas si c'est à côté de la question que tu me posais, mais pourquoi tous ces débats qu'on peut avoir sur des débats constituants pour un nouvel État, mettons les nouvelles démocraties d'Europe centrale dans les années 90, ou la révision constitutionnelle de juillet 2008, pourquoi la modification de tel article de la Constitution, évidemment, ne changera rien, en gros. Que le système de gouvernement est produit par des choses beaucoup plus complexes et que le droit de la Constitution n'est qu'un aspect. Ou bien un cas qui m'avait assez frappé, c'était le débat qu'il y avait eu en Allemagne, deux fois, sur l'usage du droit de dissolution du Bundestag. On a une procédure très technique, celle du droit de la Constitution, l'article 68 de la loi fondamentale, qui prévoit que le chancelier peut demander au président fédéral de dissoudre si le Bundestag lui refuse la confiance à la majorité absolue. On a là une norme technique pour aboutir, qui a été, comme vous le savez, instrumentalisée pour obtenir une dissolution anticipée, et la Cour constitutionnelle a été saisie, et elle était bien embêtée, car elle voyait bien qu'il y avait eu détournement de procédure, mais en même temps, comment pouvait-elle sans forcer trop les choses, comment pouvait-elle statuer? Alors finalement, après avoir expliqué qu'il ne fallait pas que les acteurs se croient autorisés à tout faire, elle a finalement laissé, elle a fait jouer le critère formel essentiellement, et le critère formel, c'est le seul qui puisse... que le droit de la Constitution peut tenter d'encadrer. La confiance, c'est un vote accordé au Parlement dans un système rationalisé. Mais évidemment, ça ne disait rien de ce que les députés avaient en tête lorsqu'ils ont voté pour ou contre la confiance au gouvernement. Et le gouvernement a pu dissoudre et le juge constitutionnel s'est autolimité. Ça, c'était un bon exemple où il a été un peu obligé par réalisme politique constitutionnel de privilégier une vision du droit de la Constitution, une approche essentiellement formelle, par opposition à la logique du système de gouvernement. C'est un exemple parmi d'autres. Mais...
Denis ?
Je pense qu'avec l'exemple que vient de donner Armel, on a une illustration du problème qui nous réunit autour de cette table, à savoir que raisonner en termes de normes constitutionnelles ne rend pas compte de phénomènes politiques dans l'activité politique sous l'empire d'une constitution donnée, et que si on se dit au fond ça c'est pas du droit, c'est de l'activité politique, on n'aboutit pas à grand chose et on se heurte à une impasse. J'avais suggéré dans le premier séminaire qu'on avait tenu que dire de la Constitution qu'elle était une norme ou un ensemble de normes, c'était devenu un topos, au sens rhétorique du terme. C'était un lieu commun, tout le monde s'entendait, on avait l'impression de savoir ce que tout le monde voulait dire quand tout le monde disait ça, même si au fond, c'est pas absolument pas évident qu'on le sache, mais au fond, c'est un langage qui permet de commencer à se parler et qui unifie un peu le monde des constitutionnels. J'ai eu beaucoup de plaisir à relire les passages qui nous ont été... suggéré de la thèse de Guillaume Tussaud, et j'ai cherché à comprendre, cherché à me poser avec le genre de problèmes qui nous sont communs avec Armel, c'est-à-dire de juristes qui s'intéressent au système politique, etc. Pourquoi l'endroit où ça collait plus, l'endroit où nous on avait l'impression d'être gênés. Et au fond, ça fait quelque temps que je dresse comme ça des listes d'endroits où précisément l'idée de la Constitution comme norme, en tout cas du phénomène normatif comme étant central dans la Constitution, pose problème. J'avais entendu une excellente intervention d'Arnaud Le Pilouer à Rennes il y a quelques mois, où il expliquait que l'opposition pouvoir constituant, pouvoir constitué fonctionnait pas parce que les assemblées constituantes fonctionnaient comme d'ores et déjà constituées, et puis une fois qu'elles étaient constituées, elles continuaient à être constituantes. Enfin, on se rendait bien compte que certaines oppositions formelles ne cernaient pas ce qui était tout de même au cœur, au noyau de l'ambition du constitutionnalisme, c'est-à-dire appréhender le politique et le configurer. Or, on a l'impression d'en être revenu maintenant au point zéro, où on a un droit constitutionnel qui est florissant, qui se développe, et dont chaque décision supplémentaire d'une juridiction constitutionnelle illustre la beauté et l'état d'avancement, sans pour autant, et on a face à ça de la politique pure qui prolifère, qui se déploie, et sur laquelle on a l'impression d'avoir aucun empire, même de pensée. On n'est même pas capable de savoir pourquoi cette politique serait... pour reprendre une terminologie maintenant perdue, une politique constitutionnelle. Pourquoi il y aura quelque chose de constitutionnel dans notre politique? Au fond, on voit une politique qui agisse, le fait qu'il le fasse complètement en dehors de tout cadre ne nous dérange pas, parce qu'on a notre constitution qui se développe à l'intérieur d'elle-même d'un côté, l'action politique qui se développe à l'intérieur d'elle-même de l'autre. Et en lisant les extraits de la thèse de Guillaume, je constatais que les théories du droit dont il faisait le tableau très admirablement avaient tout un point commun, qui était que, alors c'est lui qui parle d'ontologie, donc je vais reprendre son vocabulaire, qui était qu'elles avaient la même orientation, disons, ontologique, à savoir qu'elles posaient dans le même ordre et selon la même trajectoire le rapport entre droit et réalité en général, et dans le cas qui nous intéresse, droit et politique. Il y a la théorie normative qui dit que le droit prescrit, il y a les théories permissives qui disent que le droit permet ou autorise, et puis il y a les théories constitutives qui, selon lesquels, pour citer Guillaume, le droit instaure des états de choses. Le point commun, me semble-t-il, à toutes ces conceptions, et d'ailleurs c'est pas un hasard d'appeler ça de la théorie du droit, parce qu'à mon avis ça caractérise même ce que c'est que la théorie du droit par opposition avec d'autres manières de penser le droit, c'est qu'il y a toujours cette trajectoire, le droit est premier, il détermine des choses dans la réalité. Je suis l'auteur de telle norme, pourquoi, comment, qu'est-ce qui se passe, sur quelle plateforme ontologique je me situe au moment où je fais ça, peu importe, c'est du droit. Et je norme de la réalité qui donc est peut-être pas causée par mon intervention, mais déterminée. Donc droit 1, réalité 2. Donc dans une sorte si on temporalise, au sens philosophique du terme, ça va quand même dans cette direction-là. Et on essaye au maximum de ne pas prendre en compte le fait que le droit aurait lui-même besoin d'un sous-jacent dans la réalité. Illustration de ça, j'ai toujours pensé, je le redis, excusez-moi pour ceux qui m'ont déjà entendu le dire, l'opposition être-devoir-être m'a toujours semblé ontologiquement extraordinairement douteuse. Moi je dirais qu'au sein de l'être, il y a l'étant et le devoir-être. C'est-à-dire le devoir-être est une partie de l'être, sinon ce serait du non-être et on n'arriverait pas à raisonner. Donc au fond opposé, alors je vois déjà dans les regards de mes amis des objections qu'ils m'ont fait mille fois, mais voilà. Or, je crois que c'est ce que j'appelle cette orientation ontologique n'est pas celle de la Constitution et en tout cas de ce que le constitutionnalisme a voulu faire en mettant en rapport le droit et la politique. Je crois que c'est pas comme ça que ça a opéré. Ça a opéré, me semble-t-il, en se donnant une forme, entre guillemets, constitution, qui reconnaissait comme existant avant elle et continuant à exister sous son empire des formes d'être et d'agir politique. Des phénomènes. Le phénomène du pouvoir, l'existence, le phénomène de la souveraineté, l'existence de l'homme et de ses droits, et à chaque fois on remarquera que c'était des formes d'être et d'agir qui associaient en elles des attributions d'existence et des attributions de valeur morale. Par exemple, le pouvoir, grosso modo, on n'allait pas le chasser, on n'allait pas cesser de faire avec, mais il était potentiellement nocif, et donc pour qu'il ne soit pas potentiellement nocif, par exemple pour l'ordonner à une valeur supérieure de liberté, on allait l'encadrer par du droit constitutionnel, par telle ou telle sorte de règles ou de principes. Mais je pense même que ça va au-delà, c'est-à-dire que dans ces modes d'agir politique qui étaient reconnus par la Constitution, il y a des choses comme la loi. C'est pas un hasard si la loi, s'il y a des énoncés relatifs à la loi dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est qu'il ne s'agissait pas d'avoir une norme d'habilitation en disant « maintenant, il va y avoir des lois ». Il s'agissait de dire « la loi est là, elle est phénoménalement là avant moi, Déclaration des droits de l'homme plus Constitution, je vais en dire des choses pertinentes pour l'ordonner à un règne des fins, à un ensemble de valeurs politico-morales supérieures ». La chose intéressante, à mon avis, si on accepte de raisonner ontologiquement comme ça, c'est-à-dire une trajectoire ontologique qui ne part pas du droit pour la réalité, mais qui prend phénoménalement des choses dans la réalité comme étant donnée et comme perdurant, persistant dans le rêve, c'est que ces choses-là continuent à être dans le paysage. La Constitution n'est pas là pour dire on fait table rase, je vais créer, je prends des formules dans la thèse de Guillaume, enfin, je ne la retrouve pas ici, mais disons créer de la réalité constitutionnelle. Il n'y avait pas de Parlement avant moi à la Constitution, maintenant il y en a un. Il n'y avait pas de loi avant l'article 34, maintenant l'article 24 de la Constitution, maintenant il y a des lois. Je ne suis pas absolument certain que c'est comme ça que c'est opéré. C'est de dire qu'il y a du pouvoir politique, il est potentiellement nuisible. On va, avec le droit, le dénommer, le configurer, le réguler, sans qu'il cesse de perdurer dans sa réalité phénoménale. C'est-à-dire qu'on a toujours du pouvoir et la Constitution essaye de l'encadrer. C'est peut-être ça l'ordre cadre normatif d'Armel. À mon avis, c'est tout autre chose qu'une norme au sens kelsénien du terme, qu'une norme constitutive au sens des premiers auteurs édités à Uppsala. Et je pense qu'au fond, tout, dans la catégorie des problèmes qu'on essaye de se poser ensemble et où la Constitution comme norme n'opère pas, qu'elle ne résout pas, qu'elle n'explique pas, si on essaye de se dire ça comme ça, c'est-à-dire qu'il y a toujours le phénomène du pouvoir qui est là, dans sa nocivité potentielle, dans sa difficulté à être saisie, ça peut peut-être aider. Pour prendre l'exemple, illustrer un exemple d'Armel, la Constitution de la 4e République, c'est quoi? Est-ce que c'est les dispositions de réglementation constitutionnelle dites de parlementarisme rationalisé, ou est-ce que c'est le fait que ça a été un régime parlementaire et que ça a été bâti comme ça dès 1946? Je ne sais pas exactement, mais à mon avis, si on se contente de dire que la Constitution, c'est la réglementation constitutionnelle, ce qui serait la tendance normativiste, c'est la Constitution qui crée le régime parlementaire, elle ne le crée pas autrement que dans les dispositions de la Constitution, on en arrive à un refus de la réalité assez patent, c'est-à-dire ce que va dire Vedel ou la doctrine classique de la fin de la 4e. Il y a eu des naturations de la Constitution par des actions insupportablement inconstitutionnelles des acteurs politiques, par exemple. Ils ont calibré les votes, ils ont fait tout ce qu'il fallait pour ne pas voir qu'il y avait une règle et pour ne pas la respecter. Or, non. Or, il est parfaitement possible de plaider le cas de manière inverse en disant « c'est eux qui ont bien compris, c'est l'acteur politique, il était dans un régime parlementaire, c'était structuré, il y avait un ordre cadre normatif qui, pour parler comme Armel, qui était tel que c'était normal pour eux de vouloir une majorité, mais complètement inutile, voire nocif pour eux d'espérer que ce soit une majorité qualifiée. Donc il était parfaitement normal de leur point de vue. Leur agir politique était parfaitement rationnel et rationalisable, était constitutionnel quand ils calibraient leur vote et qu'ils essayaient de ne pas arriver aux majorités qualifiées de la Constitution. Donc au fond, je trouve qu'il y a derrière ça, j'avais jamais, jusqu'à l'occasion qui nous a été donnée aujourd'hui, été en mesure, même pour moi, par ce difficile, de voir pourquoi, enfin de voir en quoi on pouvait remettre en articulation la doctrine classique du droit constitutionnel et la théorie du droit moderne, dont Guillaume est un des représentants les plus éminents. Et je me demande s'il n'y a pas derrière ça un problème extraordinairement abstrait, qui est un problème d'ontologie. Les critiques classiques que la théorie du droit fait à la philosophie du droit, à la pensée du droit, qui sont toujours en termes de « vous avez une métaphysique et donc c'est de la mauvaise métaphysique », « vous n'êtes pas économe ontologiquement », je trouve qu'on peut retourner le compliment en disant que c'est vraiment pas économique ontologiquement de dire que le devoir-être a vocation, en étant posé seulement sur lui-même, à déterminer l'être. C'est-à-dire, je trouve que ça, c'est tout sauf satisfaisant du point de vue d'une ontologie, de la pensée ordinaire, de la vie courante, si je puis dire.
Est-ce que... Oui. D'un mot simplement, je prends la parole pour la CD juste après, puisque le professeur Barranger est au 4e République. Je profite de la présence du professeur Danquin également, qui est en train de publier les écrits de Georges Burdeau, pour enfoncer le clou dans ce que vous avez dit et rappeler le fameux texte de Georges Burdeau dans Les Mélanges Maîtres en 1956, une survivance, la notion de constitution, qui est censée être totalement obsolète aujourd'hui parce qu'on aurait eu une 5e République et un Conseil constitutionnel. Eh bien, il faisait exactement les mêmes constats que nous aujourd'hui, c'est-à-dire qu'un certain nombre de pouvoirs de fait échappent en réalité à la règle de droit. Et contrairement à ce qu'on peut penser, la situation actuelle n'est pas foncièrement ou essentiellement différente de ce que dénonçait Georges Burdeau. La preuve, c'est que nous en discutons aujourd'hui et que par conséquent, de ce point de vue-là, sa pensée reste tout à fait actuelle.
Je voudrais juste, contrairement à la règle sur laquelle l'animateur intervient ou n'intervient pas, mais peut-être la règle est telle qu'il intervient le moins possible, dire un mot, réagir un peu à ce que vient de dire Denis. Je trouve ça très intéressant dans son ordre de priorité. Je pense que c'est effectivement très éclairant ce que tu nous dis là. C'est peut-être pas tout le temps vrai. Je veux dire par là que la préexistence du pouvoir, etc., ça se vérifie très bien dans un cas comme l'Angleterre, par exemple, ou comme la libéralisation progressive des monarchies absolues, des choses comme ça. Peut-être y a-t-il néanmoins des moments, c'est une réaction à chaud, hein, donc peut-être y a-t-il quand même des moments, néanmoins, des moments démiurgiques, où ça se passe effectivement comme ce qui est postulé, c'est-à-dire, il est vrai quand même qu'en 1789, lorsque l'Assemblée nationale s'auto-constitue, elle crée une réalité, les députés créent une réalité complètement nouvelle et forgent eux-mêmes un nouveau monde. Il est vrai, me semble-t-il, que lorsque les constituants américains en 1787 rédigent leur constitution, ils construisent quelque chose de totalement nouveau. Et peut-être que dans ce cas de figure-là, l'ontologie sur laquelle tu doutes vaut, mais vraiment à des moments totalement exceptionnels qui sont effectivement extrêmement rares. Et je me demande dans quelle mesure, au fond, nous n'aurions pas tendance implicitement, pour reprendre ce que tu disais, à faire comme si tous les moments constituants étaient comme ça, comme si les moments démiurgiques étaient la règle, alors qu'ils ne sont en réalité qu'une exception très rare. Et si ce n'est pas dans cette espèce de fiction-là, voire dans cette espèce de mensonge, que réside le problème que tu soulèves. Je ne sais pas si tu...
Je pense que si j'étais un théoricien du droit, je dirais que l'énoncé constitutionnel type est un énoncé du genre « je reconnais tel phénomène comme ayant existé de toute époque, je le consacre, et mettant en évidence sa force politique indiscutable, parce que, en gros, éternel, ayant toujours été là et ayant vocation toujours à être là si on fait les choses politiquement correctement, ça va gouverner la politique de manière appropriée. C'est-à-dire, en historien de la politique, tu as parfaitement raison de dire que 1789 ou la Révolution américaine sont les moments démiurgiques que tu dis, mais ce qu'ont fait les gens qui étaient à ce moment-là n'était absolument pas de dire on va faire table rase, il y avait quelque chose, il y avait un monde avant nous, on va créer quelque chose de totalement nouveau. Là, les Français ont dit que la nation est souveraine, la souveraineté nationale, patati et patata. Les Américains ont commencé leur déclaration d'indépendance en disant que certains droits de la nature humaine étaient self-evident. Donc ils ont commencé dans le déclaratif, de manière à bâtir sur ce déclaratif les valeurs et les configurations du pouvoir qui leur semblaient devoir être leur constitution. Si je devais faire comme Carl Schmitt et dire d'un côté il y a la constitution, de l'autre il y a le droit de la constitution, ce que je mettrais dans constitution, c'est pas la décision parce que j'ai jamais vu où elle était, c'est la pensée spécifique du pouvoir propre à chaque constitution. La manière de dire le pouvoir qui est propre à chaque constitution. Et ça, c'est effectivement parfaitement neuf quand c'est dit de manière grande, en 1776, en 1789, en 1958, et moins neuf quand c'est dit de manière moins grande. Mais ça, la manière linguistique dont ça se passe, c'est de dire « je reconnais quelque chose qui a été là toute époque », de même que quand Jean Bodin dit « il y a la souveraineté », il ne dit pas « j'invente la souveraineté », il dit « ça a toujours été là ». Et ça, je pense que c'est typique, c'est là que la philosophie politique et le droit politique se rencontrent, dans ce type d'énoncé.
Une intervention.
Oui, Armel, c'est juste, ouais, je pense qu'il n'y a pas un gros désaccord là-dessus. C'est-à-dire que
pas un désaccord.
Il y a certainement des moments plus restructurants, démiurgiques, si tu veux. Encore que, c'est vrai qu'on pourrait objecter à Denis, quand même, en 1789, il y a eu quand même une sorte de volonté de faire table rase, même si c'était quand même partiellement une vision. Mais quelles que soient les choses, et l'exemple de l'Allemagne que je prenais, c'est l'exemple type d'un système qui se veut un peu normativement fermé, et en plus verrouillé par un juge qui peut être saisi, juge cantonnel, de tout quasiment. Et pourtant, Dieu merci, même le juge de Karlsruhe, qui est celui qui va le plus loin sans doute dans le monde entier, plus loin dans ce qu'il pourrait faire, même lui parfois s'arrête un petit peu, comme dans le cas que j'ai pris. Je pense qu'il y a différents, donc ça ne remet pas en cause le fait que même dans les systèmes qui ne partent pas d'institutions coutumières qui existaient et qui continuent sous reconfigurer sous le nom de parlement ou de couronne ou du gouvernement républicain, même dans les systèmes qui sont on a le sentiment d'une refondation ab ovo si on veut, ensuite le pouvoir politique soit il existe et il continue à exister, type 4ème république, c'est les mêmes forces qui étaient là et qui ont maintenu la souveraineté parlementaire au mépris, si on peut dire, de réglementation technicienne, mais au fond je crois que ce principe d'énergie, il existe toujours, et donc ça, il peut y avoir des degrés, les États-Unis de 87 ou bien la France de 89, c'est pas pareil que la RFA de 49 ou l'Italie de 47, mais au fond, je crois que le problème est le même.
Mickaël ? Non, tu te désistes. Alors Olivier ?
Moi, je vais faire quatre remarques. D'abord pour signaler effectivement un peu un accord fondamental avec ce qu'a dit, ce que vient de dire Denis Barranger sur la difficulté, à mon avis, de penser le droit constitutionnel si on part de présupposer la distinction entre devoir être et être. Ça rejoint un peu le propos d'Armel tout à l'heure sur effectivement les institutions précèdent la norme. Je pense que c'est un point capital, mais première remarque, je veux dire, c'est. On redécouvre ça, alors que si on lit Rioux, c'est ce que dit Rioux. Je suis très frappé en lisant la thèse de Guillaume Tussaud quand il dit on s'aperçoit que dans le droit, il n'y a pas que la norme, c'est la maxime fédérative. Le droit, il n'y a pas que la norme, mais il y a des juristes qui, dès le début, quand ils ont lu Kelsen, ont tout de suite pensé à l'impuissance, selon eux, de Kelsen, de penser correctement le droit. C'est-à-dire, pour eux, c'était une réduction inacceptable. Si vous lisez la préface à la seconde édition de Rioux, du principe droit constitutionnel, c'est une attaque très argumentée, je pense, contre le kelsenisme. Mais d'une certaine manière, alors j'ai lu de manière peut-être un peu orientée la thèse de Guillaume Tussaud, dans ce sens-là, finalement, tous ces efforts des théoriciens du droit pour démontrer que Kelsen, d'une certaine manière, s'était trompé. Il me semble que Kelsen nous a envoyé dans une mauvaise direction, que, d'une manière générale, la bonne direction, c'était plutôt Jelinek, et qu'on met beaucoup de temps à rattraper l'impérialisme kelsenien qu'il y a eu. En tout cas, c'est comme ça que moi, je vois un peu l'histoire de la doctrine, si on veut la reconstituer. La deuxième remarque, alors c'est un peu décalé par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, mais par rapport à la question initiale de Carlos, sur peut-on penser la Constitution en termes de normes ? Il faut quand même ajouter toujours cette précision que la Constitution, c'est pas une norme. La Constitution, c'est un ensemble de normes, c'est ce qui fait fait son intérêt d'ailleurs, c'est un peu comme le code civil, parce que quand on a dit quelques fois le code civil, la constitution civile de la France, évidemment le code civil c'est un ensemble de normes, et cet aspect, alors pourquoi j'insiste sur ce point, disons, pluriel de la constitution, à supposer même qu'on considère la constitution comme étant normative, il faut évidemment utiliser le pluriel, parce que là on a un aspect très important qui est l'aspect systématique. Je vais vous donner juste un exemple qui m'a intrigué récemment, c'est que j'ai été amené à faire un recours là, en inconstitutionnalité contre la loi LRU, et je me suis aperçu que, je m'en étais aperçu avant, que la disposition de l'article 61.1 dit, prévoit la possibilité de faire un recours uniquement s'il y a une disposition législative qui porte atteinte à la Constitution. Quand vous prenez la loi LRU, je suis raison à partir de la loi, mais on peut transposer à la Constitution, bah vous apercevez que la loi LRU en tant que telle, il n'y a pas une disposition qui vraiment pose un problème par rapport à la Constitution. Le problème de la loi LRU, c'est l'ensemble, c'est-à-dire c'est le système. Je résume en mots mon argumentation. Le vice de cette loi LRU, c'est qu'elle confond le pouvoir gestionnaire et le pouvoir académique. Bon. Évidemment, il n'y a pas une disposition de la loi LRU qui contredit en tant que telle le principe. C'est l'ensemble de la loi LRU qui porte atteinte à ce principe. C'est pareil pour une Constitution. On est obligé, quand on pense à une constitution, donc on a un contrôle de norme à norme, la loi par rapport à la constitution. Alors, si on raisonne comme ça de manière normative, il y a un gain, à mon avis, de compréhension énorme du droit, parce qu'on perd justement ce qui fait l'intérêt pour un juriste, c'est d'essayer d'articuler des normes entre elles et de penser de manière un peu systématique. Et ça me permet un peu de revenir sur cette question de l'ordre qu'a évoqué très bien Armel. C'est effectivement, on peut dire qu'il y a une sorte d'ordre constitutionnel, c'est parce qu'on suppose ou on présuppose qu'il y a une sorte d'unité qui résulte de cette systématicité. Et il me semble qu'un des problèmes, puisqu'on a évoqué tout à l'heure l'article de Georges Burdeau et la préface que vient de faire Jean-Marie Danquin aux écrits de Burdeau, un des problèmes actuels de la Constitution, c'est que cette idée d'ordre constitutionnel, elle est aujourd'hui remise en cause. C'est-à-dire qu'on a du mal à voir, en raison de la mutabilité de la Constitution, comment la Constitution peut saisir l'ordre politique, puisqu'elle est extraordinairement diverse, cette Constitution, si on parle de la Constitution écrite. D'où, évidemment, la nécessité de se rapporter à la coutume et aux pratiques. Troisième remarque, j'espère que je n'en oublierai aucune, la troisième remarque porte sur ce qu'a dit tout à l'heure Denis, qui a dit effectivement il faut trouver des endroits, je crois que c'est un peu ça qu'on peut faire, des endroits où finalement la conception normative de la Constitution achoppe, là où elle ne marche pas. Je vous donne un exemple, que je n'ai pas creusé, mais que j'avais creusé il y a quelques années, et que je n'ai jamais repris, c'est quand on pense à la distinction entre une loi constitutionnelle et une loi constitutionnelle provisoire. Je parle devant Arnaud Lepitouère, qui est le grand spécialiste de la question. Si on prend cette distinction entre loi constitutionnelle et loi constitutionnelle provisoire, quel est le critère? Il y a un critère dont on ne parle plus du tout en doctrine, c'est le critère de la durée. C'est considéré comme pas du tout un critère adéquat. Or, le critère de la valeur juridique de la norme n'est pas du tout opérant ici, puisqu'il s'agit dans les deux cas de normes constitutionnelles. Alors comment est-ce qu'on peut distinguer une loi constitutionnelle d'une loi constitutionnelle provisoire? Je vous mets au défi, et j'aimerais bien avoir la réponse, de donner une réponse à cette question en partant d'une conception normative. En tout cas, j'attends la réponse avec intérêt. Et la quatrième remarque, c'est à propos de ce qu'a dit tout à l'heure Armel, sur la question du droit à la Constitution, du système de gouvernement, et puis il a introduit, alors j'anticipe un peu sur la discussion tout à l'heure, parce que je ne pourrais pas y participer, sur les conventions de la Constitution. Il me semble qu'un des problèmes fondamentaux aujourd'hui dans la conception qu'on a de la Constitution, c'est qu'on admet, que c'est du droit constitutionnel que si c'est garanti par le juge. Et il me semble que l'intérêt fondamental des conventions de la Constitution, c'est que ça nous donne l'idée, ou ça nous donne plutôt, un droit effectif, qui est rendu effectif par l'application du droit par des acteurs politiques. Et d'une manière, à mon avis, l'intérêt de cette conception de convention de la Constitution, c'est d'essayer d'étendre le normatif. C'est du droit, mais c'est du droit qui n'est pas garanti par le juge. Et c'est ce qu'on a aujourd'hui énormément de mal à comprendre et à admettre en France, puisqu'on a découvert miraculeusement l'existence du contentieux constitutionnel. Je pense qu'on aurait tout intérêt à essayer de retravailler, c'était tout l'intérêt des travaux de Pierre Avril, de retravailler cette question du droit constitutionnel telle qu'il est appliquée par les acteurs. Et là, il me semble qu'on pourrait s'inspirer, par exemple, un peu du droit international. J'ai vu Jean-Claude Bacot était là, il pourrait peut-être en parler, où en droit international, justement, c'est un droit dont l'intérêt vient, justement, qu'il est appliqué, non pas par le juge, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, mais par les acteurs que sont les États.
Très bien. Merci. Guillaume, tu voulais intervenir?
Oui, non, je ne veux pas revenir sur la thèse que je trouve étonnamment, peut-être très naïvement, assez bornée et assez kelsénienne, enfin, plus que ce que j'imaginais, en fait, peu importe. Ce sur que je pense être un point commun entre ce que vous avez dit, c'est l'idée que finalement, on peut avoir toutes les grilles théoriques qu'on veut, et finalement, on rendra compte d'une certaine portion du phénomène, enfin, on rendra compte d'une masse de phénomènes d'une manière différente. Et chaque grille de lecture ne verra pas les mêmes choses. Donc à la limite, très bien, on n'a qu'à juxtaposer, ça fera différentes narrations d'un même, d'un même paquet de phénomènes, et ça peut être bien. Ce que je crois vous séparer, par contre, et vous opposer assez nettement, c'est, puisqu'on est d'accord sur le fait qu'on a plein de visions possibles du même magma politico-normatif, c'est qu'il va y avoir un critère de choix. Et quel est le critère de choix? Alors j'ai l'impression que là, sur le projet qui doit porter le choix de la théorie qu'on prend, du modèle de découpage dans toutes ces données-là, vous êtes assez opposé, Charmel. J'ai l'impression que c'est plutôt une idée, et chez Olivier Bois à la fin de ton intervention, le problème c'est plutôt gagner en pouvoir explicatif du droit positif. Et donc, en fait, ajouter des variables au modèle explicatif que peut proposer le modèle normativiste. Dans ce que dit Denis, j'ai plutôt l'impression qu'il y a aussi une ambition directement politique, c'est-à-dire renouer avec la doctrine politique libérale du constitutionnalisme. Et évidemment, c'est pas tout à fait, c'est ce que disait Olivier Beau aussi au tout début. Donc, à mon avis, il y a quand même là un point de désaccord important. Pour ce qui est du kelsénisme, et le cœur de vos critiques au kelsénisme, au normativisme, c'est en gros que ça dissocie de manière trop nette droit et politique. Alors, oui, certes, je suis d'accord, ça le fait. Ensuite, est-ce que c'est si mal pour les propos qui sont les vôtres? Épurer le droit de la politique ou bien séparer les deux, ça peut avoir deux effets. L'un, de démocratiser, en gros, de gauchiser le normativisme en faisant en sorte qu'il dit le droit, c'est une mécanique institutionnelle, c'est une mécanique qui fonctionne de telle et telle manière. À côté de ça, c'est pas pour ça qu'il n'y a pas des valeurs qui détermine ce fonctionnement institutionnel. Le droit n'est qu'une technique et il répond à différents buts. Dans le temps où le kelsénisme élucide la manière dont cette technique institutionnelle fonctionne, il dit d'une certaine manière également veiller à quelle fin c'est mis en œuvre. Et donc, d'une certaine manière, ça, c'est une forme d'éveil à l'esprit critique. C'est un peu la défense du positivisme chez Hart. Une autre vision, c'est une vision qui dirait en favorisant la formalisation intellectuelle du projet juridique, en favorisant la rationalisation de la mécanique juridique, ce serait une critique plutôt du type de celle que Unger peut faire à la pensée juridique contemporaine, il y a une certaine manière de légitimer le pouvoir chez Kelsen. Alors moi, je ne suis pas du tout certain de quelle branche il faut choisir dans celle que je suggère de la portée politique du kelsénisme, mais il me semble qu'il ait des moyens de réaménager le kelsénisme de façon à ce qu'il puisse parler de politique. Le moyen le plus évident, c'est tout simplement d'associer à l'analyse des normes les justifications qui sont offertes lorsqu'on les produit, puisqu'on est tous à peu près là à admettre que le pouvoir, les normes sont créées par des décisions. Ah oui, sur le projet d'Armel aussi, j'avais une autre remarque. Si tu étends ta grille de lecture des phénomènes juridiques tels que tu le suggères, quel est le degré de généralité de ta théorie constitutionnelle? Est-ce qu'elle est applicable partout ou seulement à certaines aires géographiques ou précisément à certaines aires politiques ou certains contextes de droit comparable?
Je pense que je pourrais répondre vraiment quand j'aurai un peu plus avancé. Mais enfin, l'ère d'étude, c'est quand même assez clairement les constitutions libérales, pas forcément démocratiques, mais enfin libérales, disons, depuis l'Angleterre et les États-Unis du 18e, un peu avant. Il faudrait voir, ça m'intéresse moins aussi, mais il y a toute une série de pays qui précisément sont en transition ou sont dans un entre-deux. Pour moi, l'Empire wilhelminien est évidemment un État libéral, même s'il est libéral autoritaire, on va dire. Mais c'est tout à fait, on peut tout à fait raisonner sur les constitutions allemandes du 19e, même si elles ne répondaient pas au canon de posé par Esma, ou je ne sais quoi. Alors je ne sais pas si c'était le sens de ta question, des dictatures, des systèmes de type Afrique dans les mauvaises périodes. Non, parce que là, le droit me paraît vraiment trop instrumentalisé dans le mauvais sens du terme. Il peut être instrumentalisé dans des démocraties libérales modernes. Il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin pour s'en rendre compte. Mais globalement, on va dire que c'est un système qui est relativement ouvert. C'est comme ça que je le vois. Mais voilà, ça fait déjà un programme déjà assez vaste. Et oui, bon, c'est aussi une question d'intérêt. Qui fait que je ne me suis pas sérieusement posé la question pour les systèmes dictatoriaux.
Mais tu fondes la restriction uniquement sur des considérations de type pratique, pragmatique, tu n'as pas le temps de tout faire. Ou alors sur ta préférence politique aussi, mais pas véritablement sur un critère.
Mais c'est surtout parce que je crois que pour ces régimes fermés, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Des arguments juridiques sont au service d'un pouvoir. Vous me direz, c'est toujours le cas, à vrai dire, c'est pas faux. Mais je pense que ça pourrait marcher, et d'autant qu'on l'a bien vu dans les systèmes d'Europe centrale et orientale jusqu'en 89, d'un coup, Denis disait, ils n'ont plus de public, on a pu remettre en vigueur, on a appliqué réellement, et je dirais honnêtement, des articles de la Constitution de RDA ou autres, où on a dit, bon, il faut qu'on va changer ça, on va enlever la mention du rôle directeur du Parti communiste dans la Constitution, mais on va le faire à la majorité des deux tiers, parce que ce qui est prévu, article 152 de la Constitution de RDA de 74. Un professeur de droit allemand à l'époque m'avait dit, mais ils sont totalement idiots, ils auraient pu dire, écoutez, ben non, tout ça, c'est une constitution totalement... Donc je pense que ce serait applicable. Mais pour ça, pour que ce soit intéressant, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un enjeu politique derrière tout ça, c'est-à-dire qu'il y a un petit peu de mouvement. Ou peut-être que... je ne me suis jamais vraiment intéressé de près à ça, mais je pense que ce serait jouable. Enfin, ce serait probablement... on pourrait le faire, disons. Je ne le ferai pas parce que je n'ai sans doute pas le temps de le faire, mais je pense que c'est... justement, ce serait intéressant de voir comment l'idée de l'ordre cadre peut fonctionner dans les systèmes qui sont en mouvement de ce point de vue-là. Plutôt dans... Alors oui, j'assume sans problème, mais d'ailleurs je crois que ça ne pose pas un problème scientifique grave d'assumer une préférence pour les régimes libéraux.
Avant de céder la parole aux intervenants suivants, je voulais juste faire une petite remarque en réaction à ce qu'a dit Guillaume. Je crois qu'en dehors du fait de vouloir associer le droit et la politique d'une autre manière, etc., ce qui est évidemment une préoccupation, il y a aussi tout simplement un problème simple de compréhension. Je veux dire par là que lorsqu'une constitution dit le Parlement est composé de deux chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat, moi personnellement je me pose tout simplement la question de savoir quel rapport ça a avec une norme. Je crois que ça n'en a absolument aucun. C'est-à-dire qu'il y a quand même un problème. C'est pas seulement de dire il faut élargir l'approche par rapport à quelque chose qui est normatif, enfin un modèle normatif qui serait insuffisant. Il faut également simplement comprendre des phénomènes qu'on ne sait pas décrire. Et pour lesquels, je crois que là, pour le coup, le modèle de la norme ne fonctionne tout simplement pas du tout.
Ça fonctionne pas du tout. Si, ça fonctionne très bien. Il suffit de... Enfin, c'est pas sorcier. Tu dis que c'est une norme constitutive, et puis c'est tout.
Voilà, c'est ce qu'il a dit, hein.
Enfin, moi, je trouve pas que ce soit...
Oui, non, mais en vertu de quoi? Mais là, se pose la question.
Je veux dire, les aménagements... En fait, il faut voir le coût intellectuel. C'est pour ça que je pense pas que votre question soit purement théorique, enfin, dans la discussion... anti-normativiste, à laquelle j'adhère pour une large partie, le modèle normativiste, si on est à peu près à l'aise avec la plupart de ces canons, est très facilement aménageable pour rendre compte de tout ce que vous dites. Donc c'est bien que le projet qui est derrière dans vos réflexions n'est pas un projet purement scientifique, et c'est pas du tout pour ça que c'est moins bien et que ça m'intéresse moins.
Il n'y a pas que ça, loin de là. Enfin, c'est pas à moi de parler. Donc je cède la parole à Arnaud d'abord, et puis à Renaud Baumert ensuite.
Je suis désolé, je voulais parler, dire quelque chose de la question de la question en réalité, et rebondir un peu sur ce que vient de dire Guillaume justement et Olivier Beau. Parce qu'en fait, Olivier Beau me fait plaisir, il a confirmé une intuition que j'avais depuis le départ à propos de cette question sur la Constitution est-elle une norme. C'est moi ce qui m'a frappé tout de suite dans la question, c'est le singulier. Ça m'a fait vraiment bizarre que cette question puisse être posée au singulier. Alors évidemment, je comprends bien. La raison d'économie du langage qui motivait cette formulation, mais je crois qu'elle est finalement assez révélatrice, il me semble, de vos différents projets, parce qu'il me semble que finalement l'unité de la Constitution est peut-être une sorte de paradis perdu à cause d'un justement, et le péché originel, c'est la conception normative. Parce qu'en effet, si on considère la Constitution comme une norme, c'est pas une norme, c'est un ensemble de normes. Et on perd l'unité. On perd cette unité qui, il me semble que tous vous regrettez d'une certaine manière et vous essayez de récupérer. Il me semble que le singulier également dans ordre cadre n'est pas. Tu l'as dit à demi-mot, mais il me semble que tu l'as dit quand même, cette idée qu'il y avait une sorte de système à récupérer et dont on est un peu nostalgique. Parce qu'en effet, si, de quelle manière est-ce qu'on récupère l'unité aujourd'hui? De deux façons en réalité, dans la conception normative aujourd'hui. Soit on dit la Constitution. C'est quoi la Constitution? C'est le texte. Et le texte, c'est quoi? C'est l'intention des constituants. Et tout ça, ça forme une unité. Il y a une intention, un texte, et donc une Constitution, une. Soit on dit, la Constitution, c'est un ensemble de normes, mais c'est un ensemble de normes qui est déterminé par un juge. C'est le reproche que formulait, il me semble, Olivier Beau tout à l'heure. C'est-à-dire que la Constitution se réduit à ce que le juge dit qu'elle est. Mais si on n'accepte pas... ces deux solutions. Si on dit que la Constitution, c'est pas qu'un texte, c'est pas qu'une intention, qu'il y a une liberté d'interprétation par les acteurs, et qu'il n'y a pas qu'un seul interprète, le juge, à ce moment-là, on se trouve avec une diversité qui enfin, me semble entamer gravement l'unité, l'unité de la Constitution. Et il me semble que toutes les réponses type l'ordre cadre, type la distinction constitution ou constitutionnelle de Schmitt, tout ça, finalement, fait apparaître cette sorte de nostalgie. Et du coup, moi, je me demande si c'est véritablement quelque chose auquel on doit tenir, que cette unité. Est-ce que ça n'est pas finalement simplement une illusion produite par le droit? Parce qu'à vrai dire, s'il n'y a pas d'unité, il n'y a pas vraiment de raison d'obéir. Si les normes sont produites par des autorités diverses, sans lien les unes avec les autres, évidemment, c'est un peu plus difficile de justifier une quelconque obéissance. Moi, il me semble que l'unité ne devrait pas être postulée, mais démontrée. Pour formuler ça peut-être de manière un peu plus générale, et ça rebondit un peu sur ce que disait Guillaume à l'instant, c'est que je me demande s'il n'y a pas un problème méthodologique en effet à régler avant tout. C'est que, Armel, dans ton texte, tu insistais beaucoup sur le caractère opératoire de la notion de constitution qu'on devait construire, mais parfois j'ai eu des doutes sur le sens de ce mot opératoire. Je me demandais ce à quoi ça correspondait, si c'était purement explicatif en effet, ou si c'était pas un peu autre chose. Et je me demandais si ça pouvait pas être résolu finalement d'une manière grâce à la distinction entre point de vue interne et point de vue externe sur le droit. Il me semble que la valeur opératoire dans ta bouche, c'était adopter un point de vue à vrai dire résolument interne sur le droit, c'est-à-dire finalement tous les acteurs postulent cette unité. Et donc, on perd quelque chose si on ne fait pas commun. Il me semble que une approche normative très, très radicale adoptant un point de vue complètement externe et perdrait en effet cette unité.
Une courte réaction. Si tu veux bien, ouais. D'abord, enfin, si ça t'embête pas de réagir un petit peu plus tard, parce que j'aimerais donner la parole à Renaud Gomer, oui, qui l'a demandé il y a longtemps. Ouais. Et si tu veux bien, du coup, réagir globalement, mais après, Mikhaïl.
Non, je voulais simplement dire. Oui, je crois que le projet, en fait, de Kelsen, c'était de couper avec une doctrine qui parlait à la fois de la légitimité du droit, qui était des jugements de valeur sur ce qu'il fallait faire, etc. Et sur l'efficacité, et c'était les deux, quoi, et fonder une science du droit qui fonctionne que sous la catégorie de la validité. Et j'ai l'impression que la discussion aujourd'hui, c'est un peu de savoir si on revient à un état antérieur où on s'occupe à la fois de validité et d'efficacité du droit, ou s'il faut y réintroduire de la légitimité ou des considérations sur la légitimité, sur qu'est-ce qu'est un régime libéral, etc. Moi, je serais partisan de laisser la légitimité de côté, par contre, ce que disait Olivier Brun, bah, c'est fondamental, à savoir, là on trouvera peut-être des solutions ou des débuts de solutions intéressants, c'est dans des auteurs comme Max Weber, Jelinek, qui ont un intérêt pour la validité du droit, savoir quelles sont les normes qui appartiennent au système juridique, mais également pour l'efficacité du droit, ce qu'ils considèrent comme la sociologie du droit, savoir quelles sont les normes qui fonctionnent, y compris découplées de toute inscription textuelle. Alors, j'ai un peu l'impression que c'est vers ce type de recherche qu'on s'engage si on commence à réfléchir à la Constitution comme ordre cadre, ou bien sur les conventions de la Constitution, parce qu'il y a une vraie discussion à avoir sur la question de savoir si les conventions de la Constitution sont véritablement du droit ou si c'est simplement des normes efficaces, des normes qui sont dotées d'une certaine régularité dans la répétition de l'action. Et la question supplémentaire que je vous pose, c'est, enfin, il y a deux questions que je vous pose, à vrai dire, c'est qu'est-ce qu'on entend par norme? Est-ce qu'on entend norme juridique? Bien, est-ce qu'on entend d'autres types de normes qui sont des normes comportementales, guidées par des représentations mentales d'acteurs, ce que j'aurais tendance à penser plus intéressant, et qui reformule la question d'une certaine manière, puisque de ce point de vue-là, on peut toucher comme norme ou concevoir comme norme des choses qui ne sont pas des normes juridiques. Et dans cette hypothèse, est-ce qu'il ne faudrait pas faire un travail systématique ou plus systématique sur tout ce qu'on appelle système politique? Tous les éléments qu'on considère qu'ils appartiennent au système politique, qu'on nomme jamais, et qui sont toujours un peu fantomatiques. On est toujours, il n'y a pas que le droit écrit, il y a aussi autre chose, mais est-ce qu'il ne faudrait pas un jour se pencher sur qu'est-ce que c'est cette autre chose, le faire précisément, le faire de manière rigoureuse, en disant c'est des interprétations, celles des interprètes authentiques, celles des interprètes autorisés, c'est aussi des représentations idéologiques qui tiennent à la formation politique des affaires, etc., etc., à des rapports de force, ou bien à des attentes qui sont simplement l'anticipation de rapports de force à venir. Et dans cette hypothèse, si c'est effectivement ça le projet, qui me semble un projet tout à fait défendable, tout à fait intéressant, est-ce qu'il ne faudrait pas en tirer les conséquences méthodologiques attristantes, mais néanmoins nécessaires, à savoir qu'il faut se tourner vers d'autres types d'enquêtes. Ça, ça implique d'interroger les acteurs, de faire des enquêtes de type méthodologique, de comprendre d'une certaine manière quelle est la psychologie du droit ou quelles sont les représentations mentales qui sont liées à l'existence d'un droit écrit ou d'un droit interprété, etc., etc. Je crois que le vrai enjeu en termes de méthodologie, il est là, quoi. Et de s'approprier, de ce fait, des instruments d'enquête et d'observation de la réalité sociale auxquels les juristes ne sont pas habitués, mais qui ne peuvent être qu'un bénéfice.
Alors ça, il me semble, enfin, vous soulevez là un aspect très important de la question, mais dont on aura peut-être l'occasion de reparler plus longuement dans la deuxième partie sur ce monde assez vaste qu'on désignait sous le terme de convention de la Constitution, mais qui finalement a sans doute un sens plus vaste aussi, et peut-être la manière dont la Constitution est comprise par les acteurs du jeu constitutionnel lui-même. Alors, m'ont demandé la parole dans un cadre où le temps nous est très strictement compté, car théoriquement il ne nous reste plus que 5 minutes pour la fin de la session. Successivement, les deux plus grands bavards de nos séminaires, à savoir Mickaël et Armel. Donc je me permettrai très humblement de les supplier à genoux de bien vouloir mesurer leur temps de parole autant que possible, malgré tout l'intérêt que j'apporterai évidemment à les écouter.
Moi, je vais recéder la parole à Armel qui voulait précédemment retenir.
Il est toujours ça. Je vais répondre à Arnaud. Tout ça est très, très bien parce que je trouve qu'on avance bien. L'idée d'ordre cadre, pour moi, c'est constatatif. Ça n'est pas un but, c'est pas quelque chose que je. C'est pas un idéal. Je constate qu'il y a quand même quelque chose comme ce qu'on a appelé longtemps un système et en dissolvant un peu tout. Et je pense qu'il faut revenir à une démarche un peu plus construite. Alors de ce point de vue-là, ce que dit Renaud Baumert me paraît assez juste. Hein. Il faut apprendre à retravailler certains éléments de ce qu'on appelle système politique. Encore une fois, les politistes qui ont cette étiquette aujourd'hui ne semblent plus du tout s'intéresser à ça. Et je pense que ça, c'est là où des juristes et des politistes pourraient vraiment travailler ensemble. Et puis donc, les juristes ont à faire leur part de travail. Voilà. Mais sur cette idée de... moi, je n'ai aucune nostalgie de... Je pense que l'idée de une norme ou un ensemble de normes, il me semblait qu'on l'avait déjà réglé entre nous la dernière fois. Quand j'avais dit, pour moi, c'est un ensemble de normes, tout le monde avait l'air d'être d'accord. Alors, l'idée de la systématisation, ou de ce qu'a évoqué Olivier, ou que moi, je reprends à ma manière dans l'idée d'ordre, c'est... Je constate que tout pays, tout système politico-juridique fonctionne comme... Il y a une ébauche de système, ça ne veut pas dire que cet ordre est cohérent. Moi, je défends plutôt l'idée que c'est complètement contradictoire. Il n'y a pas un seul interprète authentique. Vous voyez que je me fais calcénien quand je veux en prenant tout ça. Il y a différents types d'ailleurs d'interprètes. Ça fait un peu magma, mais au fond, plus j'approche tout ça à ma manière à moi, je constate que c'est un ordre en désordre, toujours. Il y a peut-être des pays qui ont des ordres un peu plus ordonnés que d'autres, mais... Chez moi, ça n'a aucune, il y a aucune nostalgie de l'unité. Simplement, il y a quand même quelque chose de complexe, mais avec des éléments un peu solidaires. Et moi, je vois qu'à l'intérieur de cet ordre cadre, tout est très mouvant. Et il peut y avoir des contradictions flagrantes, ne serait-ce que dans la jurisprudence du même juge constitutionnel, qui va lui-même produire des éléments d'harmonisation, par exemple, entre deux principes constitutionnels. Il y a un petit élément peut-être d'ordre, mais en fait, par ailleurs, il y aura des choses totalement contradictoires. Donc, ça ne paraissait pas contradictoire avec l'idée « Oh, bah, la Constitution n'est plus une norme, c'est dommage, il faut... »
Ça peut être un désordre cadre, si je comprends bien.
Oui, c'est ça. J'avais failli prendre ça comme titre d'un article.
Arnaud,
mais non, pardon. Mais justement, excuse-moi. Une seconde pour être... Non, c'était simplement pour te faire remarquer que tu as dit « je constate », et en même temps, dans les constats que tu as formulés explicitement, il y avait en effet beaucoup de désordre et de chaos. Et moi, ce que j'aurais bien aimé que tu précises, parce que deux choses, une, soit la systématicité, elle est postulée au départ de la recherche, tu estimes que c'est comme ça que c'est, et que voilà, on va essayer de reconstruire quelque chose qui a l'air d'un système, soit il faut le démontrer. Et il me semble que tout ce que tu as dit, elle est plutôt dans le sens du désordre. Donc moi, je veux bien que tu me dises que tu constates un système ou une unité qui lie tous ces organes d'un système, mais il faut encore me dire où se situe ce lien.
Mickaël, vas-y.
Je comprends de moins en moins, en fait, parce que cette affaire, qui donc est un bis, commence par l'idée d'un projet qui est autour de Ius Politicum, mais qui cherche à se doter d'un ennemi qui est on a des ennemis en théorie, il faut bien parler de quelque chose, je veux dire, donc il faut bien dire avec qui on n'est pas d'accord, et ça se construit, les ennemis. Je veux dire, personne n'est naïf ici, on a tous écrit des livres. Donc le cherche à se doter d'un ennemi qui est le normativisme, mais dont le héros est Kelsen. Et alors on se dit, il faudra avoir des gens savants pour en parler. Alors on invite Arnaud et Guillaume qui en fait ne défendent pas le héros normativiste et qui sont en fait, si on voulait distinguer par couple, c'est, alors il y a ceux qui distinguent l'être et le devoir être, ceux qui ne le distinguent pas, il y a ceux qui aiment bien la diversité, ceux qui aiment bien l'unité, il y a ceux qui aiment bien dépolitiser le droit, ceux qui aiment bien quand il y a plein de politiques dans le droit, les substantiels et formels, on pourrait développer les couples comme ça à longueur de journée. Et en fait, on se rend compte que ni Guillaume ni Arnaud ne sont dans la case dans laquelle on voudrait qu'ils soient. Parce que là, Guillaume nous dit, vous aimez l'unité, c'est basé là. Guillaume nous dit, mais enfin, on peut faire plein de politique, c'est très bien, tout ça. Donc, et inversement, on se rend compte, c'est ce que disait Guillaume, qu'il y a une très grande diversité dans les projets. Je ne suis pas sûr que ordre-cadre corresponde au... Bon. Constitutionnalisme libéral, je reprends les qualifications de Guillaume, ou au projet yelinekien d'Olivier, et Pims ne nous a pas parlé de son projet, mais je sais qu'il pourrait ne pas ressembler aux trois précédents. Donc la question, c'est de quoi il est question, là? Et je crois que la réponse, c'est une question de style. Il y a une question de style qui, moi, me paraît absolument certaine, une question de manière dont on comprend, enfin de ce que veut dire penser, ce que veut dire essayer de penser le droit, essayer d'avancer sur nos objets. Il y a une question de style. Et de ce point de vue-là, je crois que à quoi on mesure la pertinence ou l'intérêt des styles? Bon, d'abord, c'est une affaire de goût. Et ça, de ce point de vue-là, moi, je suis très éclectique. Donc, je trouve les deux très beaux. Donc, ça me fait bien, j'aime bien. Mais j'aimerais quand même formuler attirer l'attention sur le style, sur un des dangers du style ius politicum, qui est le danger de la renaturalisation, qui est le danger de l'essentialisation. C'est-à-dire, je vois qu'il y a de l'être, qu'il y a l'être n'est pas distinct du devoir-être, je vois qu'il y a de l'institution, je vois qu'on parle d'Oriou. Moi, je lis Oriou et je me rends compte que ça tombe toujours là où il a envie que ça tombe, parce que dans le fond... Il a un cadre théorique qui lui permet, il y a un tel goobie-goo, ça lui permet de toujours être d'accord avec lui-même, et tout en se contredisant toutes les 50 pages. Donc je crois que l'entreprise de renaturalisation est excessivement dangereuse et qu'on risque d'y perdre une des choses que le moment Kelsen en France, qui a été très fort, et Dieu sait qu'il n'en fait pas partie, je crois Kelsenien, nous a apporté. Voilà, donc je vois le problème, je vois ce qu'il y a d'irritant dans le style terroriste des post-Kelseniens. Moi-même, ça ne me terrorise pas du tout, ça m'amuse, c'est très drôle. Mais je vois aussi ce qu'on peut perdre à un assez brutal retour à des formes d'essentiel et de naturalisation des institutions. Et donc, moi, ce qui m'intéresserait là-dedans, c'est qu'on se demande comment on se méfie de soi-même dans l'usage de chacun de ces styles. Et je pense que chacune des deux écoles, s'il y a des écoles, chacun des deux styles, a des outils pour ça. Et donc ce que j'aimerais, c'est qu'on me dise en quoi ça... Plutôt qu'on se dise pourquoi, on nous annonce pourquoi notre projet il est intéressant et qu'est-ce qui permet tellement de voir, moi ce que j'aimerais, c'est qu'on nous présente pourquoi il est tellement dangereux et de quoi faut-il qu'on se méfie absolument quand on est dans un projet comme ça. Je connais suffisamment bien Denis pour savoir que il est assez sceptique pour voir très bien ce que je veux dire, mais justement, c'est le... Allez, sortez vos versants sceptiques, les gars.
Alors, c'est ce qu'on va essayer de faire, mais dans une deuxième session. Je crois que Mickaël a tout à fait raison de soulever le problème et de pointer le danger. La renaturalisation, c'est effectivement un risque à partir du moment où on n'a pas des concepts qui soient un tant soit peu opérants. Et peut-être que la deuxième partie, justement, sur les conventions de la Constitution, au sens large de ce terme, va être une espèce de banc d'essai sur à la fois les convictions, qui sont réelles mais encore incertaines de leur contenu, et des doutes qui gagneront à être les plus nombreux possibles lors de la deuxième partie. Merci.